Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Hulin, page 20, Daf Kaf. Bonne écoute et bon limoud.
Ve'is al-kadatach marzir davka, et s'il te vient à l'esprit que pour accomplir la mitzvah, il doit impérativement ramener en arrière les organes vitaux de l'oiseau, mai iria molek, pourquoi est-ce que seul l'amlika est kasher à l'arrière du cou? Même s'il égorge l'animal vers l'arrière de cette manière, en ramenant les organes vitaux vers l'arrière du cou, la shrita devrait être kasher, puisque finalement, il sectionne en premier les organes vitaux avant d'atteindre la colonne vertébrale. Et la lave shmamina, n'est-ce pas que nous pouvons déduire de cette mishnah, af marzir, qu'on peut même accomplir la mitzvah de mlika en ramenant les organes vitaux de l'oiseau vers l'arrière, ou matnitin, mais la mishnah parle d'un cas bedelo hadar, où il n'a pas ramené les organes vitaux vers l'arrière, c'est pour cela que dans ce cas, la shrita sera pasoul. Nous sommes Masechet Hulin, Daf Kafa Moudalef, à la troisième ligne du haut de la page. Nous avons vu précédemment la manière dont on accomplit la mitzvah de Melika. C'est lorsqu'un oiseau est offert en tant que sacrifice, soit en tant que korban ola, soit en tant que korban khatat, le Kohen n'égorgeait pas l'oiseau, mais plutôt plantait son ongle dans l'arrière du cou, donc dans la nuque, pour sectionner la colonne vertébrale, puis ensuite, s'il s'agit d'un korban ola, il sectionnait les deux organes vitaux, s'il s'agit d'un korban khatat, il devait sectionner l'un des deux organes vitaux. Les fils de Rabbi Chia ont voulu dire qu'il est même possible d'accomplir la mitzvah de Melika en ramenant les organes vitaux à l'arrière du cou pour les sectionner en premier, puis ensuite sectionner la colonne vertébrale. Cependant, nous pouvons quand même comprendre notre Mishnah qui dit que celui qui égorge un animal par le cou, la shrita est pasoul, parce qu'il s'agit d'un cas où il n'a pas ramené en arrière les organes vitaux. Ainsi, il a donc sectionné la colonne vertébrale avant les organes vitaux. La shrita sera donc pasoul. En l'agmara dit là-dessus, Amar Rabbi Anai, Yekablu Harovin et Tshuvatam, que les jeunes hommes, les fils de Rabbi Chia, acceptent la réfutation de leur enseignement. Des Katané, car il est enseigné dans notre Mishnah Nimsa, il se trouve que Kasher Bishrita, l'endroit qui est Kasher pour effectuer la shrita pasoul Bemlika, et pasoul pour effectuer l'amlika, kasher bimlika, l'endroit qui est kasher pour effectuer l'amlika, pasoul bishrita, et pasoul pour égorger un animal. Alors la question se pose, l'émé ou témaï, qu'est-ce que la Mishnah vient exclure? Puisqu'il est évident que la Mishnah ne vient pas parler uniquement de l'endroit qui est kasher pour effectuer la shrita ou l'amlika, parce que ceci a été enseigné clairement dans la Mishnah. En effet, la Mishnah dit clairement que seul le cou est kasher pour effectuer l'amlika, et seule la gorge et les côtés du cou sont kasher pour effectuer la shrita. Et l'agma répond, Amar Rabba Barbar Chana, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, mais plutôt cette règle générale, le miouté vient exclure Shen Vetziporen, la dent et l'ongle qui sont attachés au corps. Cette règle générale vient donc nous enseigner que la dent ou l'ongle qui sont kasher pour effectuer l'amlika, voire le tosfot, seront pasoul pour effectuer la shrita. La Gemara demande, Shen Vetziporen Behadia Katanelehu. Le fait que la dent ou l'ongle attaché au corps sont pas soul pour effectuer la shrita a déjà été enseigné clairement dans la Mishnah plus haut, Daftet Vavamudbet. La Gemara répond, et là plutôt Amar Abirmiya, Lemiute Molichumevi. Cette règle générale vient exclure celui qui effectue l'amlika par un mouvement de va-et-vient. La Mishnah nous enseigne donc que le Kohen doit uniquement exercer une pression avec son ongle pour sectionner les organes vitaux, mais s'il utilise aussi un mouvement de va-et-vient pour les sectionner, l'amlika sera pasoul. La Gemara demande, Hanicha leman de amar molich umevi bemlika pasoul. On comprend bien cela selon l'avis qui dit que l'amlika effectué par un mouvement de va-et-vient est pasoul. On comprend bien donc ce que cette règle générale vient exclure. Et là, leman de amar kasher, mais selon l'opinion qui dit que cette amlika effectuée par un mouvement de va-et-vient est kasher. Maï ikalememar, que pourra-t-on dire? Forcément, la Mishnah ne vient pas exclure ce cas. Nous devons dire donc que la Mishnah vient exclure le cas de celui qui effectue l'amlika en ramenant les organes vitaux vers l'arrière, contrairement à l'opinion des fils de Rabbi Chia. L'agma répond, Bene Rabbi Chia, les fils de Rabbi Chia, Savrela, Keman de Amar, pensent comme l'avis qui dit, Molir Kumevi Bemlika Pasoul. L'amlika effectuée par un mouvement de va-et-vient sera Pasoul. Amar Rav Kahana, Mitzvat Melika, la manière d'accomplir la mitzvah de la Melika, Kotsetz Veyored, en exerçant une pression avec son ongle, Il descend et il sectionne la colonne vertébrale et les organes vitaux, vezuhi mitzvata, et c'est ainsi que la mitzvah de Melika est accomplie. Savar Rabbi Avin le Memar, Rabbi Avin pensait dire kotzetz viored in, exercer une pression avec son ongle pour sectionner la colonne vertébrale et les organes vitaux, oui, c'est uniquement ainsi que la Melika sera kasher, molich umevi lo. Mais s'il utilise aussi un mouvement de va-et-vient avec son ongle, non, la Melika sera pas soul. Amarle, Rabbi Irmia, Rabbi Irmia lui a posé la question suivante, kol sheken de molich umevi bemelika kasher. A plus forte raison que s'il utilise un mouvement de va-et-vient pour effectuer la Melika, que celle-ci sera kasher. C'est-à-dire, puisque le pasouk n'a pas exclu clairement cette manière d'effectuer la Melika, la logique nous dit que cette Melika doit être effectuée de la manière qui ressemble le plus à une Shrita. Or, nous savons que la Shrita est effectuée avec un mouvement de va-et-vient, et non pas en exerçant une pression avec son couteau. Il est donc logique de dire qu'au contraire, la meilleure manière d'effectuer la Melika, c'est aussi en utilisant un mouvement de va-et-vient avec son ongle. Umay zuhi mitzvata, et que veut dire Rav Kahana lorsqu'il dit que c'est ainsi qu'est accomplie la mitzvah de Melika, sans mouvement de va-et-vient? Emma, c'est ainsi qu'il faut comprendre les paroles de Ravuna. Av zuhi mitzvata, même ainsi, c'est-à-dire sans utiliser un mouvement de va-et-vient, la Melika sera kasher. Mais en fait, il vaut mieux l'utiliser selon l'opinion de Rabbi Irmia. Amar Rabbi Irmia, Amar Shmuel, kol hakasher bishkita, tout endroit qui est kasher pour effectuer la shrita chez un animal, kenegdo beoref, vis-à-vis de cet endroit dans l'arrière du cou, kasher bemlika, cet endroit est aussi kasher pour effectuer la mlika. Forcément, Shmuel ne veut pas nous enseigner ce qui est enseigné clairement dans la Mishnah, mais plutôt ce qu'on peut déduire de cette phrase. Donc ce que la Gemara dit, ha pasul beshrita, on peut déduire de là donc que l'endroit qui est pasoul pour effectuer la shrita, pasoul bemlika, est aussi pasoul pour effectuer la mlika. La Gemara demande, le mioutemai, qu'est-ce que cet enseignement de Shmuel vient exclure? Il est mal le mioute ikur simanim, si tu veux dire que cet enseignement de Shmuel vient exclure le cas où les organes vitaux ont été arrachés, et donc il voudrait nous enseigner que de la même manière que lorsque les organes vitaux sont arrachés, on ne pourra pas faire la shrita d'un oiseau par exemple ou d'un animal. Et donc, on pourrait déduire aussi que dans ce cas, on ne peut pas faire non plus l'amlika d'un oiseau offert en tant que sacrifice, voire le Magine Shlomo et le Ritva. La Gemara dit, c'est impossible. Vehatane Rami Bar Yecheskel, pourtant, Rami Bar Yecheskel a enseigné dans une braïta, en ikur simanin be'of, les lois concernant les organes vitaux arrachés ne s'appliquent pas pour un oiseau. C'est-à-dire, cette braïta est en désaccord avec la Mishnah enseignée plus loin d'Afkafret, concernant les organes vitaux arrachés chez l'oiseau. Selon lui donc, si les organes vitaux ont été arrachés, on peut faire la shrita de cet oiseau et consommer la viande. On pourra donc, à plus forte raison, effectuer l'amlika d'un oiseau offert en tant que sacrifice dans cette situation. L'agma répond, Amar Rav Papa, le miouté rocho. Cet enseignement de Shmuel vient exclure la tête de l'oiseau. C'est-à-dire, l'amlika ne peut être effectuée que dans la base du cou et non pas dans la nuque, donc à l'arrière de la tête. La Gemara demande, Rocho, si Shmuel vient exclure la tête, Pshita, c'est évident, puisque le pasouk dans Vaikrahe dit clairement, Mimul Orpo Amarachamana. La Torah dit clairement donc, en face de la nuque, donc dans la base du cou, Velo Verosho, et non pas dans la tête. La Gemara répond, Mai Rocho, qu'est-ce que Shmuel veut dire lorsqu'il vient exclure la tête? Shipui Rocho, lorsque la tête commence à retrécir vers le cou. En fait, ceci est aussi évident, puisque finalement, l'amlika ne peut pas être effectuée dans la tête, mais plutôt, comme la Gemara l'explique, que gond denakat mishipui rosho. Par exemple, dans le cas où il commence l'amlika à l'endroit où la tête commence à retrécir vers le cou, vehigrim, et il a effectué l'amlika en diagonale, vehazal ad demata tatae, et ainsi, il est arrivé jusqu'à la partie en dessous, donc la partie du cou qui est cachère pour effectuer l'amlika, et c'est là-bas qu'il a sectionné les organes vitaux. Ou que de Rav Huna Amar Ravasi, et ce cas ressemble au cas enseigné par Rav Huna au nom de Ravasi. De Amar Rav Huna Amar Ravasi, Higrim Shlish, s'il a effectué un tiers de la Shrita au-dessus de l'endroit prévu pour la Shrita, Veshachat Shne Shlish, puis il a égorgé correctement les deux derniers tiers, Tsula, la Shrita est Pasoul. Et c'est donc cela que Shmuel vient nous enseigner, c'est que s'il a commencé l'Amlika au-dessus dans l'endroit prévu pour la faire, même s'il a terminé correctement, l'Amlika sera pas soul. Bar le Ritva. אמר לה רבחה ברד רבה לרבשי, רבחה פיזו רבה עדי הרבשי, הד תנה רמי בר יחזקאל. Cette braïta concerne Rami bar Yechezkel, selon laquelle en ikur simanim be'of, que les lois concernant les organes vitaux arrachés ne s'appliquent pas chez l'oiseau, lo amaran, cette braïta n'a été enseignée, et là, le mandé amar en shrita le'of minatora, uniquement selon l'avis qui dit que minatora, il n'est pas nécessaire d'égorger l'oiseau. Selon cet avis, ce sont les chachamim qui ont institué l'égorgement de l'oiseau. Selon cet avis, nous pouvons concevoir que même si les organes vitaux ne sont pas en place parce qu'ils ont été arrachés, on peut quand même effectuer la shrita. Nous tournons la page à Daf Kaf Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kaf Amud Bet. Aval le mande amar yesh shrita le'of mina Torah, mais selon la vie qui dit que c'est la Torah, c'est-à-dire c'est une loi orale transmise à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, selon laquelle il faut égorger l'oiseau, Yeshikur, les lois concernant les organes vitaux arrachés s'appliqueront aussi chez l'oiseau. Selon cet avis donc, si les organes vitaux ont été arrachés, on ne peut pas égorger l'oiseau pour pouvoir le consommer. Et cela parce qu'il est logique de dire que les lois de l'égorgement de l'oiseau sont équivalentes à celles de l'égorgement de l'animal. Amarle, Rabashi lui a répondu, Adéraba, au contraire, Ipram Istabra. Il est logique de dire le contraire. Les mains d'Amar Yeshrita le Of Minatora, selon l'avis qui dit que l'égorgement de l'oiseau a été exigé Minatora, Ika le Memar, il est possible de dire de Hachi Agmere, que c'est ainsi qu'Akosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, de Nikur, que les lois concernant les organes vitaux arrachés ne s'appliquent pas chez l'oiseau. Vafilou les mains d'Amar Kebehema, et même selon l'avis qui dit que l'égorgement de l'oiseau ressemble à celui de l'animal, l'Inya Nikur, l'Ole avec Kebehema, On peut concevoir qu'Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu qu'en ce qui concerne les lois des organes vitaux arrachés, l'oiseau ne ressemble pas à l'animal. Et là, le mandé amar en shrita leof minatora et la midivre sofrim, mais selon l'avis qui dit que la shrita de l'oiseau n'a pas été exigée minatora, mais c'est les chachamim qui l'ont institué, mais hechag mirale, d'où est-ce qu'ils l'ont appris? C'est-à-dire, sur quoi se sont-ils appuyés pour instituer que l'oiseau soit égorgé? Mi behema. Ils l'ont appris de l'animal. Forcément, si les chachamim ont étendu les lois de l'égorgement de l'animal à l'oiseau, nous dirons « Kula milta kebehema » toute la chose, c'est-à-dire toutes les lois de l'égorgement que les chachamim ont instituées pour l'oiseau, seront les mêmes que celles de l'animal. Par conséquent, les lois concernant les organes vitaux arrachés s'appliqueront aussi pour l'oiseau. Autrement dit, s'il est possible de concevoir qu'Akadosh Baruch Hu ait fait une différence entre l'animal et l'oiseau, il est impossible de concevoir que les Chachamim aient décidé d'eux-mêmes de faire cette différence lorsqu'ils ont voulu étendre les lois de l'égorgement de l'animal à l'oiseau. Amar Ravina, Amarli, Ravin Barkisi, Ravin Barkisi m'a dit, Had etane Rami Bar Yechezkel, ce que Rami Bar Yechezkel a enseigné dans une braïta, En ikur simanim be'of, que les lois concernant les organes vitaux ne s'appliquent pas chez l'oiseau, lo amaran, nous disons cela, et la bemlika, que concernant l'amlika, c'est-à-dire, un oiseau dont les organes vitaux ont été arrachés peut être offert en tant que sacrifice et le Kohen peut effectuer l'amlika. Aval Beshrita, mais lorsqu'il s'agit d'égorger cet oiseau pour consommer sa viande, Yeshikur, les lois concernant les organes vitaux arrachés s'appliqueront aussi chez l'oiseau. La Gemara demande, Veha Amar Rabbi Yirmiya Amar Shmuel. Pourtant, nous avons vu plus haut que Rabbi Yirmiya dit au nom de Shmuel, Kol Hakasher Beshrita. Tout endroit qui est kasher pour effectuer la shrita chez l'oiseau, Kenegdo Beoref Kasher Bemlika. Vis-à-vis de cet endroit dans l'arrière du cou, cet endroit est aussi kasher pour effectuer l'amlika. Nous avons dit que cet enseignement est venu pour nous enseigner la déduction suivante, ha pasoul, mais l'endroit qui est pasoul pour effectuer la shrita, pasoul, est aussi pasoul pour effectuer l'amlika. Par conséquent, si les lois concernant les organes vitaux s'appliquent pour l'égorgement de l'oiseau, elles devraient s'appliquer aussi pour l'oiseau offert en tant que sacrifice dont on fait l'amlika. L'agma répond, hahu pliga, cet enseignement de Rabbi Yirmiya au nom de Shmuel est en désaccord avec celui de Ravin Barkisi. Selon Rabbi Yirmiya au nom de Shmuel, il n'y a pas de différence entre l'endroit où on peut faire la shrita et celui où on peut faire l'amlika, tandis que selon Ravin Barkisi, il existe cette différence. En effet, selon lui, les lois concernant les organes vitaux chez l'oiseau ne s'appliquent pas pour l'amlika, mais elles s'appliquent quand même pour le cas où on veut égorger cet oiseau pour consommer sa viande. Pour comprendre le passage suivant, nous faisons une petite introduction. Un cadavre animal est impur, celui qui touche ce cadavre devient impur, et celui qui porte ce cadavre devient impur, ainsi que les habits qu'il portait à ce moment. Cependant, si cet animal a été abattu rituellement, même si cet animal était atteint d'une blessure mortelle qui le rendait tréfa, donc interdit à la consommation, quand même, la dépouille de cet animal ne sera pas considérée comme étant cadavre animal, elle ne sera pas impure. C'est ce que l'Agmara appelle que l'abattage rituel a purifié l'animal de l'impureté du cadavre animal. Les lois de l'impureté du cadavre animal ne s'appliquent pas pour l'oiseau, mais plutôt il y a des lois particulières. Le cadavre d'un oiseau impur, donc interdit à la consommation, ne transmet pas d'impureté. Tandis que celui de l'oiseau pur, qui est donc permis à la consommation, ne transmet pas d'impureté à celui qui le touche ou celui qui le porte, mais uniquement à celui qui en mange. Cette impureté est donc transmise uniquement lorsqu'il avale un morceau d'une taille d'une olive de ce cadavre d'un oiseau permis à la consommation. À ce moment, il deviendra impur, ainsi que les habits qu'il porte à ce moment. Cependant, si cet oiseau a été abattu rituellement, ou bien s'il s'agit d'un sacrifice dans le cas où l'amlika a été effectué correctement, la viande de cet oiseau n'aura pas d'impureté, comme nous l'avons dit concernant l'animal. En l'Agmara dit, Amar Zeiri, Nishbera Mafreket Verov Basarima, si la colonne vertébrale d'un animal avec la moelle épinière s'est brisée, ainsi que la majorité de la chair du cou, Nevela, l'animal est considéré comme étant cadavre animal, même s'il est encore vivant, c'est-à-dire qu'il bouge encore, nous considérons cela comme les frétillements de la queue d'un lézard après avoir été sectionné, donc l'animal transmet la pureté dès ce moment. Amar Rav Chisda, Afanan Namitanina. Nous avons enseigné cela aussi dans une Mishnah, dans Masechet Zvachim Daf Samechet. Malak Besakin, celui qui a effectué l'amlika d'un oiseau en fer en tant que sacrifice avec un couteau, alors qu'elle doit être effectuée uniquement avec l'ongle du Kohen, cette melika est donc pasoul, Metame Begadim Abetablia. Par conséquent, la chair de cet oiseau rendra impurs les habits de celui qui les porte, et donc aussi la personne elle-même, au moment où elle en avale un morceau d'un volume équivalent à celui d'une olive. Autrement dit, nous considérons cet oiseau comme étant le cadavre d'un oiseau. Vei amard trefa havia. Donc Rav Chisda dit, si tu considères que l'animal, donc l'oiseau, dont la colonne vertébrale a été sectionnée, est considéré comme étant trefa, donc atteint d'une blessure mortelle, mais n'est pas considéré comme étant cadavre animal, melikata zuishritata. Cette melika effectuée avec un couteau devrait être considérée comme étant l'égorgement de cet oiseau. Autrement dit, on devrait considérer que cet oiseau a été abattu correctement, puisque finalement, les organes vitaux ont été sectionnés avec un couteau. Tehanela sakin, ce couteau devrait lui servir, le tahara midenevela, de rendre impur le cadavre de cet oiseau, de l'impureté d'un cadavre animal, comme nous l'avons expliqué précédemment. Forcément donc, une fois que la colonne vertébrale a été sectionnée, l'animal est considéré comme étant cadavre animal. Le fait d'avoir tranché par la suite les organes vitaux avec un couteau ne sert plus à rien. L'animal sera impur comme le cadavre animal. L'Agma répond, en fait, de là-bas, ce n'est pas une preuve. Amré, les sages de la Yeshiva ont dit, Hatam, là-bas, la raison pour laquelle l'oiseau dont on a fait l'amlika avec un couteau est considéré comme étant cadavre animal et impur celui qui en mange, Mishum de lav shrita iklal, parce qu'en fait, cette manière d'abattre l'oiseau n'est pas du tout considérée comme étant une shrita, donc un abattage rituel correct. L'Agmar demande Maïtama, pourquoi? L'Agmar répond, Ravuna amar mipneshu machlid. Parce que lorsqu'il égorge cet oiseau de cette manière, le bout du couteau est enfoui, c'est-à-dire il est caché par la colonne vertébrale. En effet, une des manières où la shrita est pasoul, c'est lorsque le couteau est enfoui, par exemple, sous la peau de l'animal ou sous les organes vitaux. Là aussi, le cou est enfoui dans ou sous la colonne vertébrale. La shrita sera pasoul, cet oiseau sera considéré donc comme un cadavre animal. Rava Amar, la raison pour laquelle ici, nous ne considérons pas ici qu'il y a eu un abattage rituel, c'est Mipnei Sheudores, parce qu'il effectue une pression lorsqu'il sectionne les organes vitaux de cet oiseau. En effet, il plante le couteau dans la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'il atteigne les organes vitaux. Dans ce cas aussi, la shrita n'en est pas une. L'animal ou l'oiseau en question sera considéré comme étant cadavre animal. En l'Agmara demande, Manda Amar Mipnei Shumachlid, selon l'avis qui dit que la raison pour laquelle nous ne considérons pas ici qu'il y a eu un abattage rituel, c'est parce que le couteau est enfoui dans la colonne vertébrale. Donc selon l'opinion de Ravuna, Maitama lo amar mipnei sheudores. Pourquoi ne dit-il pas que la shrita n'en est pas une parce qu'il a effectué une pression pour sectionner les organes vitaux. Ragma répond, qu'à savoir, Ravuna pense, molir humevi bimika, effectuer l'amlika en effectuant un mouvement de va-et-vient, kasher. Dans ce cas, l'amlika sera aussi kasher. Il est donc possible que lorsqu'il a effectué l'amlika avec le couteau, il n'a pas tranché les organes vitaux avec la pression, mais avec un mouvement de va-et-vient. Par conséquent, ce n'est pas la raison pour laquelle la shrita n'en est pas une, mais plutôt parce que le couteau est enfoui dans la colonne vertébrale, comme nous l'avons expliqué. Tandis que Rava pense qu'il est impossible de faire l'amlika avec un mouvement de va-et-vient, parce qu'elle serait pas saoule. Forcément, si la Mishnah parle d'effectuer l'amlika avec un couteau, il l'a fait sans mouvement de va-et-vient, donc avec la pression. C'est donc la raison pour laquelle la shrita n'en est pas une. La Gemara demande, et selon l'avis qui dit que la raison pour laquelle la shrita n'en est pas une, c'est parce qu'il a sectionné les organes vitaux avec une pression et non pas avec un mouvement de va-et-vient. Donc selon l'opinion de Rava, pourquoi n'a-t-il pas donné la raison? Parce que le couteau est enfoui dans la colonne vertébrale, comme l'a donné Ravuna. La Gemara répond, Amar lecha, Rava te dirait, Chalada echidami. Comment se présente le cas de Chalada, donc le cas du couteau enfoui? C'est comme la belette qui habite dans les fondations des maisons, des mechassia, c'est-à-dire la belette est couverte. Et c'est de là que vient le terme de Chalada, comme Chulda, la belette. Pour dire donc que la shrita est pasoul à cause de Chalada, c'est-à-dire parce que le couteau a été enfoui, il faudra donc aussi que le couteau soit entièrement caché. Mais ici, dans le cas de celui qui effectue la mika avec un couteau, Hamigalia, le couteau est quand même découvert. C'est-à-dire, la colonne vertébrale ne recouvre pas le couteau, comme par exemple, ce serait le cas si le couteau était planté sous la peau de l'animal ou sous les organes vitaux. Nous ne dirons pas donc que la shrita n'en est pas une parce qu'il y a eu halada, parce que le couteau a été enfoui, mais plutôt parce que les organes vitaux ont été sectionnés par pression et non pas par mouvement de va-et-vient. Donc finalement, la Gemara a repoussé la preuve de Rav Chisda. Amar, Rava, Ikashali, si j'ai une question à me poser en ce qui concerne cet enseignement de Zéhiri, selon lequel un animal dont la colonne vertébrale a été sectionnée avec la majorité de la chair du cou, cet animal est considéré comme cadavre animal. Hakashali, c'est cela la question que je me pose. Vechi meta, après que l'oiseau est considéré comme étant cadavre animal, lorsque la colonne vertébrale a été sectionnée, omed ou molek, est-ce que maintenant il va accomplir l'amlika en sectionnant les organes vitaux? Autrement dit, à quoi cela sert une fois que l'oiseau est considéré comme mort lorsque la colonne vertébrale a été sectionnée? Amarle, Abaye. Abaye lui demande, Vitik Shelach, tu peux te poser la même question, même si tu es en désaccord avec Zéhiri, Olataof, dans le cas d'un oiseau offert en tant que korbanola, Debaya Shne Simanim, alors qu'il faut sectionner les deux organes vitaux. En effet, lorsqu'un oiseau est offert en tant que korbanola, il faut sectionner les deux organes vitaux. Alors que pour égorger un oiseau, donc pour la shrita, il suffit de sectionner un des deux organes vitaux. Dès ce moment, l'oiseau est considéré comme mort. Finalement, Vechimeta, une fois que cet oiseau est mort, après avoir sectionné un des deux organes vitaux, Omed ou Molek, est-ce qu'il continue à effectuer l'amlika lorsqu'il doit sectionner le deuxième organe vital? Amarle, Rava lui répond, Hatam, là-bas je ne me pose pas de questions, c'est parce que la raison pour laquelle il faut sectionner les deux organes vitaux, kedel kayem bah mitzvah tavdala, c'est pour accomplir la mitzvah de séparation. En effet, en ce qui concerne l'oiseau en faire en tant que korban chatat, la Torah précise dans Vaikrahe, et il fera la mlika de la tête de cet oiseau, donc il sectionnera la tête de l'oiseau, sans séparer la tête du corps. De là nous apprenons que pour l'oiseau en faire en tant que korban chatat, il faut sectionner un seul des deux organes vitaux. De là nous apprenons aussi que pour le korbanola, il faut séparer la tête du corps, donc sectionner les deux organes vitaux. La réponse de Rava est donc que si le Kohen doit sectionner les deux organes vitaux pour l'oiseau en faire en tant que korbanola, c'est uniquement pour accomplir cette mitzvah de séparer la tête du corps et non pas pour sacrifier cet oiseau. Mais ici, la question se pose en ce qui concerne même l'oiseau en faire en tant que korban chatat. Si l'oiseau est sacrifié lorsqu'il a sectionné la colonne vertébrale, pourquoi doit-il poursuivre encore pour sectionner un des deux organes vitaux? Un rabbin lui demande s'il est vrai que la raison pour laquelle il doit sectionner les deux organes vitaux pour l'oiseau offert en tant que korban ola, c'est uniquement pour séparer la tête du corps. Yachi ornami, en ce qui concerne la peau aussi, il devrait aussi donc sectionner la peau de cet oiseau pour séparer entièrement la tête du corps, et non pas seulement les deux organes vitaux. Rava lui répond, kol hameakev beshrita, meakev beavdala. Tout ce qui est impératif pour Égorger un animal ou un oiseau est aussi impératif pour séparer la tête du corps. Bechol she'eno me'akev b'shrita, mais tout ce qui n'est pas impératif pour la shrita, comme la peau de l'oiseau, il n'est pas impératif de la couper, s'il est coupé auparavant, et no me'akev b'abdala n'est pas impératif non plus pour séparer la tête du corps. Donc en ce qui concerne cette mitzvah de séparer la tête du corps de l'oiseau qui est offert en tant que korbanola, il n'est pas nécessaire de sectionner la peau de l'oiseau. Alors Rabbi lui demande, cette règle générale n'est pas vraie, parce que veha mi'ut simanim les rabbanan, pourtant la minorité des organes vitaux selon les chachamim, c'est-à-dire comme nous le verrons plus loin, les chachamim exigent pour l'oiseau offert en tant que korbanola de sectionner entièrement les deux organes vitaux et de ne pas se suffire de sectionner la majeure partie de ces organes vitaux. De l'homme à Akve Bishrita, cette partie donc de la minorité des organes vitaux n'est pas impérative pour la shrita de l'animal, ou Me'akve Be'Avdala, et quand même cette partie est impérative pour accomplir la mitzvah de séparer la tête du corps de cet oiseau en fer en tant que korbanola. La Gemara répond, et là, plutôt Emma, c'est ainsi qu'il faut dire, Kol She'eshno Be'Shrita, tout ce qui est concerné par la shrita, donc les organes vitaux, Yeshno Be'Avdala, sont aussi concernés par cette mitzvah de la séparation de la tête du corps. Il faudra donc sectionner entièrement les deux organes vitaux pour considérer que la tête de cet oiseau offert en tant que korbanola a été séparée du corps. Vechol she'eno b'shrita, mais tout ce qui n'est pas concerné par la shrita, donc comme la peau de l'oiseau, eno be'avdala, n'est pas concerné par cette mitzvah de séparer la tête du corps. Il n'est donc pas nécessaire de sectionner la peau du cou de l'oiseau qui a été offert en tant que korbanola. Finalement, nous comprenons pourquoi il faut sectionner entièrement les deux organes vitaux de l'oiseau en fer en tant que korbanola, parce que comme nous l'avons expliqué, il faut le faire pour accomplir la mitzvah de séparer la tête du corps. Nous passons à Daf Kaf Alef Amud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.